Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Catherine Newey. Bonjour Catherine.
Bonjour Adrien.
Ma première question c'est, qui es-tu Catherine? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Alors avec plaisir, écoute, alors je m'appelle Catherine, j'ai 48 ans, j'ai deux filles de 15 et 19 ans bientôt, je suis mariée avec mon mari qui est finlandais et j'ai grandi à Senlis près de Chantilly et je suis venue vivre à Paris à l'âge de 15 ans.
Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis directrice commerciale du Bon Marché.
Ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire que j'ai en charge tout ce qui se passe dans le magasin en termes d'offres et toute la partie achat, les services et puis la partie acte de vente, donc toutes les équipes de vente.
Très bien. Donc ça veut dire que tu, par rapport au directeur général ou par rapport au directeur
alors,
artistique,
c'est quoi? Nous avons un président. Donc je travaille dans le comité de direction. Ouais. Donc je travaille main dans la main avec le directeur artistique Frédéric Baudénès, avec tous mes collègues qui s'occupent pour les uns de la finance, de l'informatique, des ressources humaines, de la logistique. Je vais oublier quelqu'un, il va m'en vouloir. Et nous avons notre président, Patrice Wagner, qui est le président de l'entité Le Bon Marché et La Grande Épicerie.
Très bien, très clair. Alors ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui pour comprendre qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à ce poste à responsabilité?
Alors, écoute, depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment un amour et une passion pour le produit. Alors, produit, la mode, les produits de beauté, le design. Ça, depuis toute petite, j'essaie de me souvenir, mais je passais des bons moments avec ma maman et partout, on allait découvrir. Ça pouvait être dans des brocantes, chiner, découvrir, mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a partagé ensemble. Mon environnement familial était plus financier, donc rien à voir. Mmh. Et dans mes études, j'ai intégré Dauphine, où je me suis spécialisée en marketing. Après, j'ai intégré l'ESCP en troisième cycle, en master marketing communication, avant de me lancer dans le grand bain. Mmh. Et j'ai fait plein de stages qui n'avaient pas tous un lien direct avec la mode, puisque j'ai fait des stages dans la banque. J'ai fait des stages qui étaient à l'époque précurseurs dans l'éco-emballage. Donc déjà, un côté sustainability bien en avant, donc ça c'était intéressant.
Il se faisait quoi à l'époque?
C'était les petites flèches que tu voyais sur tous les packagings pour récolter des fonds pour participer au recyclage. Donc c'était déjà une première prise de conscience, mais on se parle d'il y a quand même quelques décennies. Et après j'étais intéressée par les cosmétiques où il y avait un engagement, donc tout ce qui est body shop, des choses où voilà, on commençait à parler de protection de l'environnement, respect des animaux. Et puis un stage passionnant chez L'Oréal, où là j'ai découvert la maison Lancôme et c'était intéressant pour moi de voir la partie produit, voir quel était le rôle d'un chef de produit, voilà, donc mes armes de stagiaire.
Mais c'est quoi le rôle de
D'essayer de mettre en lumière tout ce qui fait la spécificité d'un produit. C'est-à-dire que nos scientifiques faisaient un produit magnifique, mais il fallait le faire savoir et justifier son prix aussi. Donc aller apporter toutes les armes pour le commercialiser, pour expliquer pourquoi c'est un excellent produit, etc., etc. Donc c'était intéressant de cette mise en application du marketing.
Trop bien. Et donc tu restes chez L'Oréal, c'est ça?
Voilà, et après je suis lancé dans le grand bain, dans la vie active. Et là, j'avais une amie qui me parlait des grands magasins en me disant, mais toi qui aimes le produit mais qui aimes aussi ce qu'il y a autour, pas uniquement le développement produit, elle était dans un grand magasin, elle m'a dit ils recherchent du monde. Donc j'ai postulé, je suis rentrée au printemps, donc c'est l'époque Kering, en tant qu'acheteuse. Et après j'ai parcouru différents postes d'acheteuse sur la partie luxe, sur l'horlogerie, la joaillerie, en parcourant différents périmètres et responsabilités.
D'accord, et t'es restée combien de temps là-bas?
Plus de 15 ans, avec des directions de filiales, des directions de vente, direction générale des achats, luxe. Voilà, je me suis régalée sur cette partie vraiment créer un univers, créer des univers. Et l'avantage du grand magasin, c'est de découvrir plusieurs univers. La mode, le fashion, mais également tous les autres périmètres.
Trop bien. Et c'est fou quand même, ça me paraît dingue de rester 15 ans dans une même boîte.
Mais c'est vrai quand j'y repense maintenant, mais en fait, ce sont des univers où tu évolues énormément. Tu peux toucher à un moment donné. Déjà, dans un grand magasin, tu as l'achat, tu as la vente, tu as la direction des filiales, donc tu peux parcourir différents postes. Quand tu es acheteur, tu découvres un périmètre, tu vas t'éclater sur un poste d'acheteur d'horlogerie. Et quand tout d'un coup, tu vas rebasculer sur de la maroquinerie, là, tu apprends encore d'autres savoirs. Donc, c'est d'autres compétences. D'accord. Donc, tu continues à te nourrir tout le temps de ton parcours. Donc, je n'ai pas vu passer les années.
Ouais.
Et ensuite, donc, j'avais la chance de connaître beaucoup de maisons de par mes fonctions au sein d'un grand magasin, au sein de Kering.
Quand tu as terminé au printemps, tu étais quoi ?
Directrice adjointe des achats. Donc, je m'occupais de tous les achats du magasin, donc tous les périmètres. Et donc, j'étais souvent en lien avec de très belles maisons. Et l'une d'entre elles recherchait un directeur des accessoires et c'était la maison Vuitton.
D'accord.
Et cette maison Louis Vuitton, que je connaissais d'une partie, je connaissais par ma relation professionnelle. Mais là, j'ai eu la chance de la découvrir de l'intérieur. Ouais. Et là, c'était une révélation.
Okay.
Parce que j'ai découvert totalement quelque chose de très très différent, puisqu'on connaît les 450 magasins, la taille de la maison immense, mais tout d'un coup en l'intégrant, quand on va visiter les ateliers, les usines, discuter avec les directeurs artistiques, partager avec l'approvisionnement, la structure, l'industriel, là ça m'a donné une toute autre vision de la maison. Sincèrement, j'ai redécouvert et j'ai...
Qu'est-ce qui t'a choqué, marqué, impressionné
alors... Quand on parle d'excellence produit, d'excellence, là, c'est vraiment la définition même. Okay. Les gens sont extrêmement compétents. Mais la dimension artisanale, je l'avais pas appréhendée de cette façon. Et là, d'aller voir les ateliers, d'aller voir l'histoire, l'amour du produit, ça, c'est vraiment quelque chose qui était impressionnant. Mmh. Et la fierté d'appartenance des équipes. Donc ça, c'était vraiment un travail important. Moi, je m'occupais des accessoires. Donc les accessoires, c'est tout sauf la maroquinerie et le ready-to-wear. Donc c'était les ceintures, les bijoux, les foulards, les porte-clés. Et c'est un travail avec des directeurs artistiques. Donc notre travail, c'est d'aller faire grandir les catégories produits. Ou à travers le monde. Et donc, il y a un travail avec les directeurs artistiques qui sont à la base vraiment... Moi, je travaille avec Camille Micheli et Kim Jones pour l'homme. Et le travail avec les industriels, la supply chain, les équipes commerciales à travers le monde, les former, expliquer pourquoi on va développer tel produit, pourquoi on va privilégier telle gamme couleur, matière, etc. Et ça, c'était tout nouveau. J'ai vraiment appris un nouveau métier.
Et alors, qu'est-ce que tu... J'aurais pu te poser la même chose par rapport au printemps et je te posais la question pour Louis Vuitton, mais tu pourras me répondre sur les deux. Qu'est-ce que tu retiens, en fait ? Quelle est la recette magique de ces maisons-là ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont si uniques, qu'elles sont encore là après plusieurs décennies, presque plus de 100 ans, non ?
Pour la première maison, pour les grands magasins en règle générale, il y a quelque chose qui est fort, c'est la curiosité.
Ouais.
Les équipes sont dingues et passionnées vraiment de tout.
C'est-à-dire
quelqu'un qui va s'occuper uniquement d'un produit, mais va être passionné sur ce qui se passe. Quelqu'un qui s'occupe du prêt-à-porter homme va regarder à fond ce qui se développe sur la maroquinerie, le soulier, le food. Il y a vraiment, ce sont des profils très curieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux, vraiment. Véritablement, il faut avoir cette passion-là.
Du vendeur jusqu'au chef de produit.
Complètement.
Etc.,
c'est une curiosité, c'est curieux. Voilà. Et puis, il y a un travail d'équipe, et ça, je te reparlerai, mais le travail d'équipe, c'est clé dans ces univers de grands magasins. Et sur la partie Louis Vuitton, ce côté excellence, vraiment, c'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être absolument parfait. Dans une recherche de marché, une recherche de besoins, les remontées d'informations d'un magasin, le développement produit. Moi, je crois que j'étais bluffée par se dire bah oui, on peut passer. 15 heures à savoir si on va mettre un stud sur une paire de lunettes, plutôt à gauche, plutôt à droite. J'avais au départ l'impression que c'était finalement pourquoi autant de temps ? Et c'est vraiment cette perfection, cette quête de perfection dans les matières, dans l'artisanat, dans le savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez bluffé.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'une machine comme Louis Vuitton, j'ai l'impression que tout ce qui... Enfin, c'est une machine de guerre, ça fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chaque produit, tu as l'impression que c'est un succès. Quelle est la dimension de l'artisanat versus le marketing dans tout ça ?
Ah, c'est vraiment la force créative qui prime.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est vraiment le directeur artistique a cette volonté, ce devoir d'impulser la créativité, et c'est ce qui va être vraiment la ligne directrice. C'est la créativité du directeur artistique, et après les collections vont suivre. Alors bien sûr, il y a des équipes incroyables qui vont savoir ce qui va manquer dans une collection, pouvoir l'inciter, mais on va partir de la créativité, le reste va suivre. Donc je pense que c'est cette force-là. Après, oui, il y a la formation est excellente, donc les équipes de vente connaissent parfaitement et le produit, les techniques de vente, les magasins, il y a une qualité de matériaux, donc on va s'y sentir bien. Voilà, il y a vraiment cette excellence-là, elle va être sur tous les items. Formation, force de vente, architecture, produit, et la partie vraiment qualité-produit, elle est incroyable.
Ouais. D'accord, très bien. Et alors, tu finis Louis Vuitton, tu restes combien de temps chez Louis Vuitton ?
Je reste 2 ans et demi, je me suis occupée des collections hommes et femmes. Et quand tout d'un coup, le groupe me rappelle en me disant, il y a un poste, on te voit absolument, il s'agit d'un grand magasin. Alors je me suis dit, bah, j'ai déjà fait les grands magasins.
Bon.
Elle m'a dit, non, rencontre, c'est vraiment extrêmement différent. Donc j'y vais vraiment moyennement convaincue, malgré la grande fierté qu'on pense à moi pour ce magnifique magasin. Et tout d'un coup, j'ai découvert aussi les spécificités uniques du bon marché. Le bon marché, c'est un magasin.
Ouais.
Donc quand vous avez un magasin, vous avez dans le périmètre l'achat et la vente, ce qui est
d'accord.
totalement unique. C'est le seul grand magasin au monde où vous avez cette structure-là. Ce qui fait que vos équipes ont vraiment la partie complète. La sélection produit, les travails avec les équipes de vente, mais la partie aussi, quel type de concept on va mettre dans le magasin, quel type d'événement on va faire. Donc ça, c'était incroyable. Donc c'est un périmètre incroyable. Il y a un président, Patrice Wagner, qui incarne parfaitement cet amour du magasin et cet amour vraiment des gens qui s'occupent du magasin. Donc la priorité est vraiment sur les équipes de vente. Et donc avoir rencontré mes collègues aujourd'hui, voilà, ça a été une vraie découverte. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire.
Trop bien.
Et je n'ai pas été déçue.
D'accord. Et donc là, tu arrives ici au bon marché.
Bon marché.
Donc tu nous expliquais en quoi consistait ton rôle, mais on va revenir dessus. Ton premier jour, tes 100 premiers jours, c'est parce que tu viens remplacer quelqu'un, j'imagine.
Oui, qui était parti depuis quelques mois. Donc le poste était vacant depuis 6 mois, je crois.
En effet,
ce n'est pas une création de poste. Et c'est un poste où j'ai essayé de regarder ses spécificités aussi, pour ne pas arriver en calant, en calquant ce que j'avais fait avant, et en essayant de m'imprégner aussi de l'esprit du bon marché.
Ouais.
Alors ça fait très prétentieux de dire qu'il y a un esprit rive gauche, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment. Alors j'ai rencontré des équipes incroyables, pour beaucoup qui sont encore là, très attachées. Alors très 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 attachées à leur magasin.
Ouais, marqué, vraiment.
Il y a cette fierté d'appartenance dont on parlait. Grand magasin, il y a un ADN, il y a vraiment quelque chose qui est acquis. Un esprit d'équipe incroyable. C'est-à-dire que véritablement. Quand on travaille en magasin, il y a toujours des moments de rush, il y a un esprit d'entraide qui est très concret. Hein. On le voit et on passe un week-end dans le magasin, on le voit. Et ça, je n'avais pas cette image de l'extérieur. J'avais l'image d'un magasin incroyable, avec une offre incroyable, mais je n'avais pas forcément cette image d'accessibilité. Je me suis dit, bon, c'est un magasin très haut de gamme. Et en le voyant, le magasin est incroyable, il y a une offre incroyable, mais les équipes sont hyper accessibles. Les équipes sont vraiment... à ton écoute, elles aiment les clients, elles aiment le produit. Donc il y a véritablement une très très belle alchimie. Et puis il y a une spécificité au bon marché, c'est la partie culturelle et artistique. Et là, travailler main dans la main avec Frédéric Baudenès, notre directeur artistique, c'est un plaisir, puisqu'on va travailler ensemble. Lui va avoir cette vision créative pour la partie exposition. On a chaque année un artiste qui est mis en avant. Il y a une dimension culturelle et artistique qui va nous porter plus loin. Et c'est ce qui fait que dans le magasin, je ne sais pas si tu as réalisé, mais il y a plein d'endroits où en temps normal, on aurait pu mettre 3 marques de plus, un espace, vendre des produits. Et en fait, ce sont des espaces pour respirer. Ce sont des espaces pour... Il y a des arbres, il y a des allées, il y a des fauteuils. Il y a une librairie où on a des fauteuils, on peut déambuler, on peut se balader. Beaucoup d'espaces qui sont dédiés à un confort, un accueil client. Et on va dire qu'aujourd'hui, on espère être un lieu de vie plus qu'un grand magasin.
Ouais. Trop bien. Des œuvres d'art aussi.
Beaucoup d'œuvres d'art. Il y a une très très belle collection d'art contemporain dans le magasin. Et on le voit, donc chaque année au mois de janvier, d'habitude, partout dans le monde, on a plutôt une communication sur les soldes.
Ouais.
Nous, au mois de janvier, on a une prise de parole artistique avec des œuvres qui viennent envahir le magasin et qu'on infuse, on fait infuser dans tout le magasin. Après, on a des expositions plus fashion avec des artistes. Là, on termine une collaboration avec Philippe Catherine qui a été incroyable. Qui a mis son amour du mignonisme, le courant qu'il avait créé, et qui avait créé des monsieur roses. Donc, on avait des monsieur géants, tout roses, très bienveillants, qui venaient envahir le magasin. Voilà, donc c'était sympathique, le côté très décalé. Donc, c'est ça qu'on aime bien. C'est se dire, voilà, on a un magasin très institutionnel, avec une magnifique architecture, des matériaux, en plein cœur de la rive gauche, mais malgré tout, on est un petit peu impertinent par moment.
Trop bien. Et alors, juste pour revenir sur ta prise de pote, comment on se prépare à ça, même si tu venais du grand magasin, tu étais dans le même groupe, parce que ça appartient au groupe LVMH, le bon marché. Comment est-ce qu'on se prépare, on s'imprègne du bon marché avant de prendre un poste qui est aussi important?
Alors, je m'étais dit que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps parce que je passais du temps déjà en tant que cliente de façon très, très naturelle. Mais j'avais une liste de questions, j'avais plein de choses. Je voulais mieux connaître la façon dont ils travaillaient. Je trouvais que l'architecture était vraiment très particulière, très forte. Mmh. Et donc, du coup, ça m'intriguait de savoir
on
comment ils allaient.
Sur le design d'André Putman, non, c'est ça?
Complètement. Ouais. Et puis, de se dire comment les équipes travaillent entre elles. Mmh. Et le fait d'avoir impulsé vraiment une énergie. Focuser sur le magasin, c'est le magasin qui est le plus important dans l'entreprise. Et partant de là, alors très souvent, on peut se dire dans d'autres pays, ça va être peut-être le produit qui va être le plus précieux. Au sein du bon marché, il faut avoir, et pour les équipes, il faut avoir autant de passion et d'amour pour le produit, mais le client et tout ce qu'il y a autour. Et c'est quelque chose qui change la donne.
Tu l'as moins retrouvé ailleurs?
Je l'ai moins retrouvé ailleurs et je pense que ça existe un petit peu moins ailleurs ou c'est en train de changer peut-être ailleurs actuellement. Et dans beaucoup de maisons, c'est le produit qui est la star de l'entreprise. Bah, nous, c'est le client. Ouais. Donc, à partir du moment où on construit tout autour. Donc, c'est ce qui fait que les équipes sont incentivées aussi sur des notations qui font vraiment, c'est l'esprit de la clientèle, leur perception du service qui va être clé pour nous. Donc, nous, si le chiffre est très bon, mais que derrière, on n'est pas bon en termes de service, ça ne fonctionne pas. D'accord. Il faut vraiment. Et on s'aperçoit qu'on a une clientèle très fidèle, une clientèle locale qui vient là. Et quand on échange, parce qu'on fait plein de petits déjeuners avec nos clients, on leur fait découvrir des moments privilégiés. Et quand on échange avec ses clientes, ses clients, ils nous partagent des anecdotes dingues. Ils connaissent le magasin par cœur. Ils ont des souvenirs avec des moments. Ils viennent avec leurs grands-parents, ils viennent avec les enfants, ils viennent avec des amis, ils ont passé, on a eu des ateliers de tatouage, de piercing, c'est plein d'accord. de moments un peu marquants dans une vie.
Mais comment on fait pour tisser un lien aussi fort avec une clientèle rive gauche de quartier? Tu viens d'énumérer pas mal de choses, mais très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai ma liste de clients, de meilleures clientes qui sont là, qui viennent régulièrement, je les invite à ces pots, je les rencontre, je leur écris personnellement.
C'est un petit peu tout ça. On a des espaces qui sont nos anciens bureaux. On a un espace très sympa au troisième étage où on peut faire pas mal d'événements. On fait des petits déjeuners, des défilés de mode, on fait des rencontres avec des artistes. Et on invite à chaque fois des clients. Donc, on essaie de renouveler aussi les personnes que l'on peut inviter. Mais nos équipes de vente, lorsqu'elles discutent avec des clients, en fonction de leur centre d'intérêt, si je prends un exemple, des clients à l'horlogerie qui sont passionnés de montres, passionnés de nouveautés, tout d'un coup, on va penser à eux pour les inviter lorsqu'on va présenter toutes les nouveautés des derniers salons horlogers ou lorsqu'on va avoir, pareil pour mes collègues de la grande épicerie, une dégustation de vin. À chaque fois, on essaie de comprendre les centres d'intérêt de nos clients. Et puis, quelquefois, on fait une découverte, mais ce sont des moments privilégiés. D'accord, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un attachement. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure sur les équipes, ce côté appartenance, sentiment vraiment un lien très fort avec le magasin. On a cette chance-là avec beaucoup, beaucoup de clients qui nous disent « Mais voilà, mais j'ai un souvenir incroyable, j'ai passé un bon moment, j'ai envie de le partager. Enfin, » il y a un attachement fort.
Trop bien. Toi, tu passes du temps avec les clients aussi?
Oui, j'adore ça. Enfin, sincèrement, c'est une découverte parce que ce sont des moments privilégiés. Et on fait ces moments avec nos équipes. Et tous les jeudis, on a des événements. Tous les jeudis du mois, on a des événements. Et lors de ces événements, on passe du temps pour mieux les connaître, pour essayer de savoir ce qui leur ferait plaisir aussi lors d'un prochain... Quelles attentes, exactement. Quelquefois, elles sont impressionnantes parce qu'elles vont nous dire... Mais, vous avez changé telle marque de place et je ne la retrouve plus. Et celle-ci, vous l'avez vue. C'est vraiment...
C'est magique, ouais.
C'est des moments précieux. Et puis, on apprend plein de choses. Vraiment, c'est... On leur présente, par exemple, avec notre directeur artistique ou la directrice du bureau de style qui est dans mon équipe, qui vient leur expliquer comment on va créer une exposition. Elles vont dire pourquoi vous avez choisi, comment vous avez choisi l'exposition, collaboration, Philippe Catherine, ou comment vous décrivez, vous anticipez les tendances. Et c'est plein de questions, comment vous choisissez de mettre telle marque avec telle marque. Et c'est un partage. Et c'est souvent, il y a l'envie de connaître un peu la vie du grand magasin de l'autre côté.
Bien sûr. Ouais, ok, trop bien. Et vous êtes très transparent sur ces sujets-là.
Oui, franchement, c'est complètement. Et on le fait quelquefois avec des groupes de clientes. On leur fait visiter les expositions avant même l'ouverture.
D'accord.
On essaie de faire ces moments-là. Et quand on a de nouveaux projets, on leur partage tout de suite. Là, à la rentrée, on va fêter nos 170 ans. C'est un grand moment et on va mettre en place un théâtre immersif. Donc là, c'est totalement nouveau.
Ouais.
Lors du dernier événement avec nos clientes, on a pris un peu de temps d'échanger avec eux en disant juste pour avoir leur réaction, pour leur partager. Et c'est souvent très intéressant. Eux, nous font part, nous font comme retour que c'est très sympa d'avoir l'information avant les autres. Mmh. Et de se sentir concerné, mais nous on le fait très naturellement.
Bien sûr, trop bien. Et alors, pour revenir sur ton arrivée ici, à un moment donné, tu arrives dans quelque chose qui est construit, tu ne détruis pas pour reconstruire, hein, tu construis sur des bases solides. Ça ressemble à quoi ton premier jour et même tes 100 premiers jours finalement?
C'est des moments qui sont particuliers, mais... T'as un espace-temps très, très atypique parce qu'à la fois, tu es sur du court terme. Parce que, en fait, quand tu vas arriver, tu vas travailler sur les opérations, l'exposition du moment, tu vas travailler sur des choses en urgence.
Ouais.
Donc, tu vas faire des salons, tu vas aller faire. Donc, il y a une partie très court terme où tu es plongé dans le bain. Tout d'un coup, tu sais, voilà, tel rendez-vous de marque, on doit négocier avec telle maison, on doit aller découvrir tel nouveau créateur. Très concret en magasin, voilà ce qui se passe. Et puis, en même temps, on travaille sur des schémas directeurs où on refait des espaces. On va retravailler nos espaces de service client, on va retravailler nos espaces de beauté. Et donc, c'est cette vision plus long terme. Donc, en fait, c'est un métier où tu as une dualité entre du très, très court terme, très opérationnel. Et ça, il faut aimer ça. Mmh. Et ça, moi, j'adore ça. C'est... Ouais. Mais en même temps, se garder du temps pour envisager l'avenir du magasin, l'avenir, l'évolution d'un périmètre. Comment on fait évoluer la mode femme? Comment on va faire évoluer la partie luxe? Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on agrandit ou pas l'horlogerie? Voilà. Donc, c'est cette période-là. Qui est génial et qui est vraiment le quotidien de toutes mes équipes, cette partie-là. De la même façon, les priorités sont entre le produit, donc aller découvrir la marque de demain, quelle va être l'expo, ça c'est du très très produit, très qualitatif. Et puis en même temps, on est des gestionnaires. Moi, mes équipes gèrent un PNL, elles gèrent un périmètre complet. Donc dedans, elles ont aussi la partie financière, la partie gestion de stock, la partie coût. Voilà. Et donc, ce sont des profils très particuliers qui aiment autant les deux. Donc ce court terme, ce long terme, cette partie très produit créatif et en même temps avoir une vision d'un PNL complet, de savoir comment elles vont mener à bien et améliorer la productivité de leurs espaces. Donc c'est pour ça qu'il y a ces profils très complets. Et une troisième spécificité aussi de nos métiers, ça va être cette curiosité dont je te parlais tout à l'heure. Cette curiosité de dire j'adore un produit, mais en même temps celui d'à côté il est passionnant et il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Dans mes équipes, j'ai des personnes qui étaient avant à la maison, qui sont passionnées, et tout d'un coup une opportunité fait qu'il y en a une qui a pu passer dans l'univers de la joaillerie. Ça se transmet. La passion ne se transmet pas. En revanche, la connaissance peut se transmettre. Donc, la personne qui est arrivée sur l'horlogerie, la joaillerie, elle est allée voir des marques, des maisons, des artisans. Ils lui ont appris l'amour du produit. Mais cette passion, cette curiosité, elle l'avait, quel que soit le produit. Donc, c'est une petite spécificité aussi de nos métiers.
Trop cool. Est-ce qu'on peut diguer dans chacun de tes départements, parlant des achats, c'est toujours un truc assez intéressant, les achats, mais comment c'est organisé les achats? C'est quoi le calendrier des achats?
Alors déjà, les achats sont organisés par département. Donc on a vraiment la mode femme, la mode homme, souliers maroquinerie, la beauté, lingerie enfant et toute la maison et le design.
Donc ça c'est plus, une personne ou
des... Ça c'est à chaque fois un pilote de chaque département, plus les événements commerciaux. Donc on a des pilotes pour toutes nos expositions.
Okay.
Donc ça fait quand même une multitude de pilotes, mais qui vont travailler avec des équipes de vente et des équipes d'acheteurs.
Ok, toujours.
Et toujours, et à chaque fois, il va y avoir un travail en amont. Donc tu vois, là, on vient de présenter les stratégies marché. Donc on est sur une vision à 3 ans où on a le bilan de nos résultats, le bilan de nos actions et notre vision à plus long terme. Comment on va faire évoluer? Donc évoluer, c'est les surfaces, évoluer, c'est le portefeuille de marque. Est-ce qu'on veut aller un peu plus large, un peu plus d'accessibilité prix, un peu plus de maisons internationales? Et à chaque fois, il y a cette vision qui est défendue pour savoir ce qu'on va faire, donner du sens. Et de plus en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on développe de l'expérience. Et ça, toutes mes équipes achats, mais toutes les équipes ventes également, vont aller développer de l'expérience.
Elles sont responsables de l'expérience aussi.
On a une direction artistique qui est en charge et qui pilote toute l'expérience avec les concerts, avec les expositions. Mais au quotidien, nos équipes ensemble vont aller travailler tout ce qui peut se passer.
Mais alors, qu'est-ce que c'est, les expériences aujourd'hui?
Ça peut être un cours de cuisine dans notre magasin, ça va être des services dédiés aux enfants avec les récrés du bon marché où les enfants peuvent faire des ateliers ludiques tous les mercredis et week-ends. Ça va être des magiciens qui vont venir dans des boutiques pour animer. Voilà, c'est tout un programme. Là, par exemple, on avait une super collaboration avec TAG Heuer et Porsche qui était au rez-de-chaussée pendant l'exposition Philippe Catherine. Et on avait des ateliers culinaires, on avait des ateliers pour enfants, on avait un simulateur de voiture pour pouvoir passer un moment et découvrir les sensations. Voilà, ce type d'expérience.
Trop bien.
Donc on est à la fois sur des choses qui peuvent toucher des enfants, des adultes.
Ouais. Voilà. Trop bien. Et alors, tu s'occupes aussi de la maison aussi alors?
De la maison
et de la grande épicerie.
Alors, la grande épicerie, alors j'ai mon homologue, Giles Roderick, qui est un Gallois et qui s'occupe de développer la grande épicerie. Il y a deux magasins grande épicerie, un collé au Bon Marché et un autre rue de Passy dans le 16e arrondissement. Okay. Et là, on travaille dans les. On a les mêmes réunions d'équipe pour partager aussi. Ouais. Mais il est pilote de ces deux beaux magasins.
Mais ces deux magasins se communiquent en permanence.
Tout à fait.
Déjà, ils communiquent par une passerelle.
Géographiquement pour celui-là, tout à fait. Et puis, on travaille sur les mêmes expositions.
Ouais.
Donc ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette même vision artistique globale, commune.
Ouais, ouais.
On a des clients qui sont bien sûr communs. La plupart de nos clients achètent dans les deux magasins.
Ouais, ouais. Avant de parler de l'offre produit dans le magasin, c'est qui la cliente bon marché?
Alors, je pense qu'il y avait, il y a quelques années, on pouvait dire qu'il y avait un profil de cliente. Aujourd'hui, il n'y a vraiment qu'à se promener dans le magasin pour voir combien on n'a plus de profil type.
Okay.
Ce que je pourrais te dire, c'est une cliente locale. C'est que, on est vraiment à plus de 70% sur une clientèle locale
qui vit en France. 6e, 7e.
Qui vit en France, qui vit à Paris.
Okay.
On a une belle clientèle provinciale aussi qui nous rend visite les week-ends et les vacances scolaires. Ça, c'est très fidèle.
Mmh.
Et c'est une cliente, souvent, on va dire, qui vient et qui connaît la mode, qui est initiée.
Mmh. Qui regarde
les défilés ou qui s'intéresse aux produits, qui aime les belles choses.
Ouais.
Et souvent, on a des échanges et des discussions avec nos clients qui nous disent « Ah oui, mais je connais » et on voit qu'ils sont connaisseurs.
Ouais.
Donc c'est passionnant parce que ils viennent rechercher aussi une forme de sélection. Il y a un côté curateur du bon marché qu'on avait mis souvent en avant, le côté sélection. On est un petit grand magasin.
On a tout le concept store et grand magasin.
Exactement. On est exactement entre les deux. Donc, on a des clients qui adorent venir parce que justement, c'est pas trop grand. Il n'y a pas 8 étages avec 3 bâtiments. C'est assez simple. Donc, en revanche, comme on est plus petit, il faut qu'on ait une sélection encore plus pointue.
Oui, bien sûr.
Sinon, ça sera la même chose en plus petit. Donc, on a au sein de chacun de nos départements des espaces multimarques où là, nos acheteurs, bien sûr, vont avoir le meilleur de la mode ou le meilleur du luxe ou le meilleur de la beauté ou de la maison. Ils auront les grandes maisons institutionnelles, les nouveaux acteurs, mais ils vont surtout aller chercher aussi les jeunes pousses et les pépites de demain. Donc c'est un travail de sourcing, d'aller chercher des marques qui ne sont absolument pas connues à un moment donné ou qui vont l'être ou qui commencent à l'être. On a des multimarques et on a des clientes qui viennent vraiment toujours pour aller découvrir le talent de demain et nous font des retours. Voilà. Et en fonction du succès aussi, on va accompagner ces talents et on va pouvoir en développer certains. Ça, c'est important pour nous. C'est quelque chose qui est une force. On pourrait faire autre chose. On pourrait rajouter 3 grosses maisons.
Ouais.
Et non, on ne veut pas. On veut vraiment garder ce côté.
Des espaces pour
exactement.
Les petits. Ouais.
C'est un laboratoire de talents, des marques qui vont se développer, d'autres pas tout de suite, mais plus tard.
Ouais. Et typiquement, cette nouvelle création, ces petits jeunes qui arrivent, pourquoi vous les sélectionnez? Qu'est-ce qui fait qu'ils vous tapent dans l'œil?
Alors, ça va être plein. Alors, nos équipes vont aller parcourir le monde aussi pour aller en chercher, mais ça va être également des rencontres lors de conférences, des rencontres lors de présentations produits, dans des showrooms, des tout petits showrooms. Ça va être des prises de contact. On a des équipes qui répondent vraiment à des prises de contact en direct par les créateurs. Il va y avoir à chaque fois un coup de cœur. Nos équipes se disent, là, allez, faites-moi confiance. Et à chaque fois, on se dit, OK. Tu peux te faire plaisir sur quelques minutes, tu y crois, et on y va et on fait des tests. Et sincèrement, il y a eu de jolies découvertes. Et nos expositions, à chaque fois, on a 6 expositions par an. À chaque exposition, on a des espaces incroyables qui sont au rez-de-chaussée du magasin, au premier étage et au deuxième, qui sont dédiés à ces expositions. Et là, on ne va pas aller chercher des maisons connues par tout le monde ou implantées par tout le monde. On va aller chercher des choses un peu plus insolites. Donc, on a à la fois des maisons installées et puis des produits complètement nouveaux.
Comment elle est organisée, cette offre, dans le grand magasin?
Alors, au sein de notre étage, au niveau moins 1, on a tout l'univers de l'homme. Mais là, tout l'univers complet. C'est-à-dire qu'on aura à la fois le prêt-à-porter, le soulier, les accessoires. On a un barbier, on va avoir un restaurant. Mais donc, c'est un univers très masculin. Au rez-de-chaussée, on va avoir toutes les maisons de luxe qui vont être en pourtour du magasin.
Ouais,
la beauté,
ouais,
en shopping shop. Ouais. Sinon, nous avons la beauté au cœur avec l'horlogerie, la joaillerie et puis la maroquinerie et le bijou. Ouais. Donc là, c'est vraiment les métiers du grand magasin où on se fait plaisir, à la fois pour des achats plus importants avec les maisons de luxe, mais également pour des achats un peu plus quotidiens.
Mais si c'est ici, c'est pas pour rien. Pourquoi on le met au rez-de-chaussée? Parce que c'est là où il y a le plus de monde.
Tout à fait, très demandé. Ouais. On est sur un achat coup de cœur aussi, parce que tout ce qui est bijoux et tout ce qui est maroquinerie, horlogerie, alors qu'on va être sur des étages au-dessus, sur le premier et le deuxième, on va être beaucoup plus sur de l'essayage. On va passer un petit moment dans les cabines d'essayage, on va avoir d'autres ambiances. Donc on a décidé de mettre le soulier à côté du ready-to-wear, puisque là on travaille la silhouette, donc on a une démarche vraiment de silhouette, donc mode femme et soulier, la lingerie également. Et puis au deuxième étage, on continue avec deuxième étage, au deuxième étage, mode femme soulier, au premier étage, mode femme, un peu de beauté et la lingerie.
Ouais.
Et puis nous avons tout l'univers de l'enfant au troisième étage.
Mais il y a des typologies de marques qui sont au premier versus le deuxième. Comment on fait le choix du premier versus le deuxième?
Alors, au premier étage, on est sur une ambiance, une femme qui est beaucoup plus, on va dire, à la recherche de produits fashion. Donc, on a les jeunes pousses, les talons. Une femme, on a souvent une démarche d'achat plus au quotidien. Quand on va être sur un achat plus raisonné, plus cérémonie et plus haut de gamme, plus designer au deuxième étage.
D'accord.
Donc, si on devait résumer, les choses plus accessibles sont au premier étage et la découverte de talents, de designers au deuxième.
Très bien. Et troisième?
Troisième enfant. Tout l'univers de l'enfant, là, de l'enfant de la naissance à l'adolescence.
Okay.
On a également la pelucherie, on a l'espace récré avec les ateliers, enfin voilà, un petit
on
espace sympa.
On trouve tout au bon marché.
Voilà, tout à fait.
Trop bien. Il y a aussi une offre food, mais tu t'en occupes aussi de ça?
Non, alors c'est mon homologue, parce que l'offre... En fait, je t'ai décrit le bâtiment 1, donc c'est le magasin, mais avec les passerelles, on arrive au magasin 2, et là, au premier étage, au deuxième étage, on a une maison qui est incroyable, donc tout l'espace maison, qui est la maison du bon marché, et au rez-de-chaussée, c'est la grande épicerie.
Ouais,
rez-de-chaussée, puis la cave au moins un. Mmh. Et donc là, c'est géré par la grande épicerie. Donc souvent, les clientes pensent que c'est un seul magasin avec un département food. En fait, ce sont deux entités, mais travaillées par les mêmes équipes.
Trop bien. Comment on fait rentrer une marque? Comment on choisit une marque? Quels sont les différents critères? Parce que je pense qu'il y a une dimension produit, bien sûr, il y a une dimension business. Quelle est sa capacité à générer du business, etc. Comment on fait ce choix-là?
Alors, de plus en plus, on choisit vraiment. Alors, il y a ce coup de cœur, se dire est-ce que cette marque complète notre portefeuille de marque? Et puis, aussi se dire, finalement, qui s'adresse cette marque? Est-ce que finalement, des clientes qui aujourd'hui ne vont pas trouver dans notre assortiment et on va leur faire découvrir quelque chose? Donc, on va vraiment essayer de se dire, je ressens le produit, j'ai un coup de cœur, j'aime le produit, mais après, à qui ça va s'adresser? Et en fonction de ça, on se dit, oui, c'est pour nous. Ça va être intéressant de développer. Ou alors, on va se dire, non, ça ne sera pas tout à fait nous, ça ne sera pas tout à fait notre clientèle. Mais notre clientèle, ça peut être aussi la maman, la jeune sœur, le frère. Enfin, on a une clientèle large.
Bien sûr.
On se balade dans le magasin, on voit des personnes il y a plusieurs générations de familles, plusieurs générations qui se promènent. Et on a une clientèle qui a tendance à s'ouvrir aussi, qui voyage, qui a des goûts beaucoup plus variés.
Trop bien. Moi, je suis obsédé par le produit, mais qu'est-ce qui... Et toi, j'imagine que aussi, tu dois être un peu... un peu ouf du produit, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots.
On est passionné par le produit. C'est vraiment ça.
Et qu'est-ce qui fait qu'un produit, toi, t'accroche l'œil? Je me mets toujours à la place de l'acheteur qui se balade dans les showrooms, qui voit des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de vêtements. Qu'est-ce qui fait qu'une marque t'attrape le regard, qu'un produit t'attrape le regard et tu sais, il va fonctionner, celui-ci?
Là, par exemple, on a nos équipes qui travaillent sur les événements commerciaux. On avait fait des brainstorms, on a fait pas mal de voyages ensemble et on a une envie de dire, il nous manque un espace mobilité. Mobilité, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait tous du vélo, on a tous envie de s'acheter aussi des accessoires vélo, on fait tous un peu plus de sport qu'avant. Donc concrètement, nos équipes à la mode femme ont vraiment encore suragrandi Lululemon qui est notre maison qui s'est développée en exclusivité au sein du bon marché. On s'est dit, il y a tout un assortiment, on va le développer, il y a plus d'accessoires pour le faire du pilates. C'est un exemple. Là, on va ouvrir dans quelques semaines une boutique dédiée à la mobilité avec Cowboy, cette marque de vélo électrique et des accessoires Rafa. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a des amoureux du vélo dans nos équipes. Ils nous ont dit, on sait vraiment le produit phare, c'est Rafa, c'est quelque chose qui va être incroyable. Voilà, donc il y a à la fois cette connaissance du marché, ces coups de cœur. On développe de plus en plus de mailles. Donc on a une offre de cachemire importante. On sait que nos clientes, aujourd'hui, y a un peu plus de télétravail. Mmh. Donc, il y a à la fois, elles ont envie de s'acheter plein de choses très, très habillées parce qu'il se passe plein de cérémonies. Ouais. Il y a 2 ans de retard de cérémonies à rattraper. Mmh. Et puis, en même temps, bah, on va se développer en sneakers, on va se développer aussi en mailles pour être sur un porté aussi un peu plus confort. Donc, d'accord, la notion de confort qui va primer. Mmh. Donc, on va faire évoluer et rechercher d'autres marques de sneakers, ouais, parce qu'on sait que ça va se développer.
Mmh. Et toi, tu es une grosse consommatrice de mode.
Mmh, ouais. J'adore ça aussi.
Forcément.
Donc, c'est un fil conducteur dans nos équipes qui sont passionnées par ça.
Ouais. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ses propres goûts et les goûts de sa clientèle?
Je crois qu'on arrive maintenant, et souvent, on se fait des petits clins d'œil souvent quand on dit j'aime, je suis cliente ou pas, mais est-ce que c'est notre cliente? Et même que lorsque nous, par exemple, on se dit je ne suis pas dans la cible, ouais, mais il y a le coup de cœur parce qu'il y a un travail créatif, parce qu'il y a un travail sur la matière. Donc on arrive à faire ça, où on sait projeter nos clients. On dit tiens, là, je sais que je vais faire. Et quelquefois, on peut se dire ça, c'est très sympa, mais je ne vois pas. Alors, quelquefois, on teste, on va jusqu'au bout, on se dit on a une exposition, on va tenter. Ouais. Puis des belles surprises.
Ouais. Ouais, parce que les expositions, c'est aussi un moment, un moyen de tester des marques, des produits.
C'est un vrai laboratoire. Ouais. Beaucoup de nos partenaires rentrent par ça. Ou voilà, ça a été des découvertes, ça a été des très jolies surprises. Et on s'aperçoit qu'il y avait une vraie rencontre entre la marque, son positionnement, son prix, sa dimension créative. Souvent, c'est sa dimension créative. Mm-hmm. Et donc, on les poursuit. On continue après de longues années parce que c'est une jolie collaboration.
D'accord. Et quand on rentre au bon marché, on reste combien de temps? C'est pour une saison? C'est pour 2, 3, 10?
Alors, tout dépend. Ouais. En fait, mais souvent, les achats sont faits pour une saison, mais on peut s'engager sur un temps plus long parce qu'il y a des investissements, parce que... Non, c'est quelque chose que l'on fait. Mais souvent, on va regarder la collection. Lorsqu'on parle de mode, on va regarder chaque saison, il y a une nouvelle collection.
D'accord.
Et on renouvelle. Si on prend la mode femme, on va dire qu'on a fait 25 mouvements lors de la dernière saison avec des changements d'emplacement, avec des agrandissements, des rentrées de nouvelles marques. Donc à chaque fois, on a un tiers de notre offre en exclusivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important.
Ouais,
on essaie de nourrir.
Si important.
Comme on est plus petit, on est plus petit, donc c'est un premier point, mais surtout on a une clientèle qui a envie de découvrir quelque chose. Et si c'est vendu partout, c'est sympa quand même, parce qu'elle vient, il y aura de l'expérience sur un joli magasin, mais on veut vraiment développer cette partie, donc le côté curateur, prescripteur, et c'est pour ça que nos équipes sont passionnées, et elles aiment le produit, et elles peuvent en parler aussi et partager leur passion, pourquoi elles ont déniché cette nouvelle pépite, voilà.
Et qu'est-ce qu'elles ont en échange de l'exclusivité, les marques?
On va communiquer sur elles, on va les faire découvrir. Déjà, on va pouvoir, par notre portefeuille de clientes, on va pouvoir faire découvrir les nouveaux noms, on va communiquer, on va pouvoir faire rencontrer quelquefois la créatrice ou le créateur avec nos clients. Voilà, donc on va essayer de mettre en lumière et donner toutes ces chances à cette nouvelle marque.
C'est quoi les plus grandes réussites de ces derniers
Si je prends post-Covid, on a plein de jolies pépites. Alors je réfléchis, on a fait un joli podium qui était avec la maison d'Estrée, tout s'est vendu. Donc on va continuer avec la marque et on va la développer en corner. Donc ça, c'était pour nous, ça a touché complètement notre clientèle. Des tailleurs très très bien coupés, une accessoirisation. Il y avait un chien, on dit la parisienne qui a sa signature, et notre clientèle a répondu tout de suite présent. On a Colite by Your Name. Colite, c'est une créatrice qui développe autour du bandana beaucoup de choses en personnalisation. Que ce soit sur des sacs, que ce soit sur des vestes, du foulard, ça a été un succès. Donc, on la recommence et puis on va continuer encore avec elle. Caroline de Benoît, donc cette créatrice parisienne de bijoux avec toujours une personnalisation. On a fait 2 saisons ensemble, un carton plein.
Cette dimension
clientes.
Personnalisation, la femme bon marché, elle adore ça.
Elle adore ça. Ouais. Et c'est vraiment la frontière où on a notre cliente qui est presque designer aussi. Ouais. Elle va s'approprier, elle va pouvoir choisir. Voilà, il y a cette dimension-là, c'est quelque chose que l'on développe.
Mais c'est quelque chose qui a toujours existé dans ta carrière, toi, la personnalisation.
À titre personnel, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'on se dit, même si ça ne se voit pas, il y a peut-être juste un truc à l'intérieur, mais c'est toi qui as choisi la doublure. C'est des petites choses, mais toi, tu le sais. Et c'est quelque chose qui est très présent au bon marché. On le fait, donc cette personnalisation et au-delà maintenant, c'est des collaborations aussi. Lors de notre dernière exposition, on a fait rencontrer des talents créatifs qui n'avaient rien à voir et qui ont développé des produits pour nous. Donc ce côté collaboration, c'est encore quelque chose de différent, c'est d'exclusif. Donc tu viens chercher quelque chose qui est en série limitée ou en édition, voilà.
C'est quoi les plus belles collabs que vous avez, enfin vous avez été entremetteur entre deux.
Oui, bah, là, juste dernièrement, je réfléchis, on avait Sweet Pants avec Fred, donc deux univers où tu te dis, mais quel est le point commun entre cette légendaire maison de sweatshirt et de jogging et puis cette légendaire maison joaillière. Et en fait, on a le câble qui est dans le produit emblématique de Fred, qui est Force 10. Ce câble, on l'a réutilisé pour les sweats, donc dans les cordons du sweat, du hoodie et du bas de jogging. Un raz-de-marée, c'était un mélange insolite. On a eu Kawe avec Cowboy, donc les vélos et puis des vêtements de pluie, donc des univers qui se parlaient, mais de loin et là qui ont travaillé. La veste et Marée de la Ordaine. Voilà, on en a fait plus de 80. Et ça, c'est des choses qui nous parlent parce que quelquefois, même les maisons n'y pensaient pas au début.
Bien sûr.
Et souvent, c'est de talents créatifs. Donc, il faut qu'il y ait une entente. Et finalement, il y a de très jolies rencontres.
Et ça vient de vous à chaque fois, les idées de dire « Ouais, ça serait trop cool de voir Jean-Michel
Alors,
avec... »
Ça vient de nous en partie. Et puis, ça vient aussi des maisons lorsqu'on leur parle. Ouais. Lorsqu'on va dire à Oli Dermy, c'est une incroyable maison de beauté holistique. Bah, qu'est-ce que tu aimes, le végétal? Et puis, tout d'un coup, elle va passer, elle va dire « Mais vous avez telle maison Charlot, de plantes personnalisées, on peut faire quelque chose. » Voilà, c'est ce type de rencontre. Donc voilà, il faut consacrer du temps.
À tout ça, ça se construit.
C'est pour nous, c'est important. De l'espace, donc ça, je pense qu'on est vraiment ceux qui, dans le milieu des grands magasins internationaux, on a des surfaces incroyables dédiées à ces expositions. Il faut pouvoir le faire. Et du temps, parce que c'est vraiment quelque chose de clé pour nous.
Ouais. Et de chronophage.
Mais on s'éclate à le faire.
Ouais, c'est un des trucs les plus amusants.
Ouais.
Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on anime une équipe de vente? Tu dis que toi, tu gères les deux, donc c'est à la fois un avantage et aussi un gros challenge, ou pas d'ailleurs.
Alors moi, je préfère les deux. C'est fantastique, c'est d'une richesse incroyable puisque on a le retour direct. C'est-à-dire que nos équipes vont aller développer des produits et acheter des produits, les faire vendre, et tout d'un coup, on a le retour direct de nos équipes de vente qui vont nous dire alors. Là, vous êtes gentil, mais c'est le bleu. Vraiment, le bleu, ça, c'est incroyable. On a un succès. Là, en termes de finition, c'est ça qui fonctionne très bien. Là, moyen, donc on a un retour direct. C'est un luxe d'avoir... on peut faire des tests. C'est un vrai laboratoire, ce magasin. On peut faire plein de choses. Et l'animation d'équipe, pour nous, comme je te le disais, c'est service client, la relation client. Donc ça, c'est vrai. C'est pas fake, c'est pas juste pour faire joli. C'est ce qui nous anime au quotidien. Donc chaque matin, il y a un brief du matin et nos managers vont animer les équipes pour repasser les messages principaux, pour parler des résultats de la veille, parler surtout de ce qui se passe dans le magasin. Parce que nos équipes, elles doivent faire vivre aussi tout ce qui va se passer trois étages plus haut, rayon d'à côté, en disant, voilà, il y a une expo, il se passe ça. Là, on a un moment, il y a un magicien, là, il y a un portraitiste, là, il y a un concert.
Donc, ça se fait pendant le brief client
Brief du matin, il y a cet échange-là. Et puis, on a toutes nos équipes ont un smartphone avec l'accès à toutes les informations. Donc, c'est quelque chose que l'on développe et on passe du temps. C'est vraiment pour nous important de continuer à les nourrir.
Une newsletter, c'est un portail.
Des newsletters, des cultures clients où on partage aussi les actualités. Et puis, ça fait partie vraiment des choses que l'on souhaite partager. Si c'est juste pour nous, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit partagé par toutes nos équipes.
Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un vendeur est un bon vendeur? Et est-ce qu'un vendeur peut être un bon acheteur et vice-versa?
Alors, ce sont des métiers différents, mais avec beaucoup de passerelles. Nous, j'ai connu des vendeurs exceptionnels, mais qui ne sont absolument pas intéressés. Eux, ce qui les anime au quotidien, c'est le client. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. En revanche, la communication d'un bon vendeur sera clé pour l'acheteur. C'est vraiment toutes ces remontées clients, toutes les remontées. Donc la communication entre les deux va être clé.
Comment ça s'organise?
Nos acheteurs vont chaque mois, déjà nos acheteurs vont sur le terrain. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir les bureaux juste au-dessus du magasin. Ça, c'est un plus énorme. Et on a cette spécificité-là. Toutes nos équipes vont sur le terrain. Donc, elles vont chaque mois passer un samedi. Elles vont descendre donner de l'aide à des moments, à des temps forts. Elles seront là pour Noël. Et donc, cette proximité avec les équipes, c'est clé. Et puis, nos équipes aiment la vente. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui... il n'y a pas l'achat d'un côté, la vente de l'autre. Et nos très bons vendeurs, c'est cette passion du client. Donc, je vais en prendre... ils connaissent les collections. Ils sont intéressés par le produit. Ils vont se documenter. Ils vont aller regarder. Dès qu'ils vont avoir une nouveauté, ils vont appeler la cliente pour dire... la dernière fois vous m'aviez demandé ça, je crois que j'ai quelque chose qui va y répondre. Mmh. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va aussi sortir du cadre, qui va prendre des initiatives.
Mmh. Trop bien. Et toi, t'es meilleure vendeuse ou acheteuse ?
Comment ? Alors, moi, je suis, écoute, je prends plaisir aux deux. Ouais. Dans ma vie, j'ai passé plus de temps côté achat, côté développement produit, mais je m'éclate en magasin. Donc, tu vois, c'est quelque chose... Donc, je ne sais pas si je suis... Je pense qu'il me manquera encore quelques formations produits techniques pour vendre certains produits. Donc, je serais peut-être limitée sur une magnifique table de Pitaïnec pour pouvoir la vendre parfaitement ou certaines grandes complications horlogères. Mais je prends un plaisir surtout à construire la relation avec le client. C'est ça qui nous anime.
C'est quoi vos leviers pour aller chercher de nouvelles clientèles et vous battre aussi contre la concurrence qui fait rage partout, tout le temps? On est quand même dans un univers qui est extrêmement concurrentiel.
Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a un seul magasin qui est presque devenu un lieu de vie. Donc nous, nos leviers, ça sera montrer notre visage. Il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. Le bon marché est connu par plein de gens, mais il reste encore vraiment, même le fait d'avoir qu'un seul magasin nous enlève une forte notoriété en province, dans certains pays, par rapport à des collègues et concurrents. Donc notre travail, ce sera surtout d'aller communiquer, de faire savoir ce que l'on fait. Il y a un savoir-faire dans le magasin. Maintenant, il faut le faire savoir. Donc, ça va être des campagnes de communication, ça va être un travail avec les journalistes, avec la presse. Ça va être des événements un peu insolites comme ce que nous allons faire avec le théâtre immersif à partir de septembre pour célébrer nos 170 ans. C'est faire un pied de nez en disant, voilà, vous avez peut-être l'image du magasin. On fait du théâtre, on fait des concerts de rock, on a un atelier piercing, on va faire, voilà, il se passe toujours quelque chose dans le magasin, on a des espaces de restauration, on a des espaces de coiffure, des nail bars, les chiens sont acceptés, on peut faire une belle balade sympathique, il y a des collections d'art à découvrir dans le magasin, donc c'est faire savoir, donc c'est voilà, beaucoup de communication. Donc, et d'événements qui vont, lorsqu'on va faire des concerts, on va cibler une clientèle qui aurait peut-être jamais mis les pieds chez nous.
C'est quoi la martingale alors pour se faire connaître ? Qu'est-ce qui marche le mieux ?
Je pense que... non, ce que l'on a souvent comme feedback, c'est quand les gens sont venus parce qu'on les avait sollicités pour un lancement produit, parce qu'ils étaient venus accompagner quelqu'un, ils sont très agréablement surpris. À chaque fois, on a cette chance-là, c'est de dire, comme ils découvrent un service, ils ont découvert des équipes plutôt très sympas, il y a un retour à une expérience client qui est très positive. Donc nous, donc à chaque fois, c'est se dire, quand on réussit la communication par les réseaux sociaux, par le digital, par nos communications, nos supports médias, quand ils viennent, c'est plutôt bien.
Ouais. D'ailleurs, tu parles de digital. Quelle est la part de digital aujourd'hui au bon marché ?
Aujourd'hui, elle est petite, parce qu'on a aujourd'hui un acteur dans le groupe LVMH qui s'appelle 24S qui travaille aussi une large collection de marques et qui est l'acteur digital pour le groupe. Et nous avons un service e-commerce qui s'est développé il y a quelques semaines, quelques mois à peine, en février, et qui est plutôt un service, donc c'est lbm.com. Et lbm.com, ça met en avant toute l'actualité de notre magasin. Donc quand tu parlais de levier pour se faire connaître, c'en est un. Il y a une toute petite offre produit qui est le relais de nos expositions. Donc tous les produits dont je parlais de collaboration Philippe Catherine, c'était sur le site. Mais ça n'a pas vocation à mettre tous les produits du magasin. En revanche, tu peux prendre rendez-vous sur tous les services du magasin, que ce soit un peu un rendez-vous de personnel shopping, un rendez-vous pour un soin dans une cabine de beauté, des choses comme ça. Et tout ce qui se passe dans le magasin est relayé sur ce site. D'accord. Donc ça, c'est très important pour nous. Et c'était bien que tu le mentionnes parce que pour nous, c'est un vrai levier de communication.
D'accord. Très bien.
Et tout nouveau.
Et sur Insta, Facebook, etc.
Instagram, on est très actifs. Ouais. On est actifs sur Instagram. On préserve aussi nos clients pour pas être non plus trop présents. Mais c'est vrai que c'est important pour nous. Ouais. On oscille entre une prise de parole sur toute notre partie artistique, culturelle. Donc, c'est pas uniquement commercial. Et puis, toute l'ambiance du bon marché, ce qui se passe. Donc, on a beaucoup relayé les événements, les concerts, nos expos et nos produits aussi lorsqu'on a nos exclus.
Très bien. Il y a une dimension dont je trouve qu'on ne voit pas trop au bon marché, c'est la responsabilité, la sustainability. Je trouve que c'est un sujet où, autant chez vos concurrents, quand on y va, c'est
visible.
In your face. Au bon marché, on ne la voit pas.
Alors, au bon marché, on a pris un angle différent. C'est un sujet qui passionne nos équipes. Mmh. Mais depuis des années, moi, ça fait 5 ans que quand on échange avec nos équipes, il y a plein de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément communiquées. Mmh. Sur la partie offre, on développe beaucoup l'upcycling. Donc, ça, on a des acteurs de seconde main comme Imparfait, beaucoup d'upcycling dans tous les espaces. On a un gros travail sur l'éco-conception de nos concepts. Okay. Par exemple, on ouvre un institut de beauté qui va ouvrir au mois de septembre. Bah, tout est fait dans une démarche responsable. Tout le travail sur nos LED, notre éclairage, est fait avec une vraie économie d'énergie et un respect de l'environnement. Donc, il y a énormément... La grande épicerie également pour la sacherie. Toutes nos collections de marques propres sont faites avec une production locale française, européenne, avec un sourcing pour vérifier toutes les matières et toute la partie traçabilité. Mais ça, c'est quelque chose que l'on fait plutôt pas en low profile, mais c'est, voilà, on le fait, mais on ne l'affiche pas forcément. Ouais. Donc là, on commence parce qu'en échangeant avec nos clients nous demandent ce qu'il y a, donc qu'on met en avant avec souvent des petits logos qui s'appellent bien, avec les belles initiatives. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour nos espaces, pour le bien fondé de nos productions, de nos réalisations, tout le travail qui est fait en respect de nos partenaires aussi, donc nos marques partenaires. Ouais. Et on essaie de mettre en avant et de souligner la partie éco-responsabilité.
D'accord.
Donc c'est quelque chose que l'on faisait plutôt dans l'ombre. Ouais. Et maintenant, on le met en avant, mais on l'a dans beaucoup d'espaces.
Mais c'est vrai que c'est un sujet où moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de marques qui sont en train de switcher, qui faisaient bien les choses et qui se disent en fait maintenant c'est bon, il y a trop de bullshit et de greenwashing partout. Nous on le fait bien, il faut qu'on le montre.
Ouais. Ben ça, c'est exactement ça. Et je prends les exemples sur nos marques propres. Donc je te parlais du sourcing que l'on trace maintenant complètement. On a un travail aussi de récupération sur des tissus on a travaillé aussi des collections qui vont être faites avec des récupérations de tissus pour ne absolument rien gaspiller. On travaille aussi avec un acteur qui va détricoter certains éléments de nos collections pour refaire de la matière première et créer une nouvelle collection. C'est quelque chose qui est passionnant pour nous. On ne le prend pas comme un champ de contrainte et jamais on fera une collection ou un produit parce qu'il est green. Nous, on va partir du principe que le green, c'est plutôt une évidence et ça doit l'être partout.
Ouais.
Voilà, mais on ne fera pas une exposition green avec juste marqué green et choisir des produits parce qu'ils cochent la case. Non, il faut que le produit, on craque dessus, soit un produit dingue et en plus, il est green.
C'est quoi votre North Star Metrics? Quels sont les chiffres? Qu'est-ce que vous regardez tout le temps? Les trois chiffres que tu regardes tout le temps?
Alors, on va être sur, bien sûr, la dimension de chiffre d'affaires, hein, c'est notre niveau de vente, nos visites qualité. Visite qualité, nos équipes sont animées. Donc, on a des systèmes de baromètres où on a les feedbacks des clients qui sont analysés. Et sincèrement,
c'est quoi les questions et à quel moment ça se fait?
On le fait tout au long de l'année. Hein, donc, c'est par plusieurs vagues, mais qui sont des visites mystères sur l'ensemble des départements. Et là, tout est analysé du début de l'expérience client jusqu'à la prise de congé. Ça va être vraiment la façon dont s'est comporté notre conseiller de vente pour présenter le magasin, pour répondre aux besoins du client. Est-ce qu'il a proposé d'autres choses? Est-ce qu'il a parlé un peu de l'histoire du magasin? Comment il s'est comporté? Comment était le magasin? Comment étaient nos espaces restauration, toilettes, tout ce que tu veux, qui peuvent apporter du confort dans l'expérience client? Et ça, c'est quelque chose qui anime chacune de nos réunions.
Trop bien. Ok.
C'est vraiment, vraiment important.
Et donc, c'est les deux chiffres d'affaires et qu'est-ce que pensent vos clients de vous, quoi. Hyper intéressant. Il paraît que Bernard Arnault, il vient souvent se balader dans les couloirs du Bon Marché. C'est vrai ou c'est un mythe?
Non, c'est vrai. On a cette chance d'avoir notre président et actionnaire qui vient, qui s'intéresse. Et je trouve ça fabuleux pour les équipes de se dire que...
Ça doit être une pression de dingue, non?
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous anime, mais finalement, ça reste un client donc, qui a un œil de lynx. Mais non, c'est quelque chose qui est pour nous pris comme c'est quelque chose d'un acquis. Donc on sait qu'il peut y avoir ces visites comme on peut avoir. On a beaucoup d'artistes, de journalistes, de comédiens, d'acteurs qui viennent dans le magasin. Comme on est à taille humaine, ces clients exigeants qui cherchent aussi de la discrétion peuvent venir et passer un bon moment sans être importunés.
Bien sûr. Trop bien. Là, on parlait de la concurrence tout à l'heure qui faisait rage et notamment d'Internet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en revient beaucoup d'Internet et qu'il y a cette envie de vivre des vraies expériences, de toucher le produit, etc. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, Internet a fait du mal aux grands magasins?
Nous, on prend le digital comme plutôt quelque chose de complémentaire. Mmh. On a une démarche plutôt omnicanale que uniquement physique ou digitale. Mais nous, on a des clients qui utilisent aussi Internet, mais ils vont souvent l'utiliser en début pour préparer un shopping, ouais, pour se renseigner. Mais c'est vrai que quand on leur pose la question, souvent ils se disent « Oui, mais moi j'aime les conseils. » Alors il y a ceux qui vont aimer la dimension du magasin, de voir la... Voilà, on a un magasin, on a des équipes d'architecture qui sont incroyables, qui, ouais, ont fait des réalisations folles. Donc on a ceux qui prennent plaisir. Mmh. Après, il y a ceux qui prennent plaisir à discuter et échanger. Et puis, à un moment donné, sur l'avantage du magasin, c'est qu'on a... Il y a un moment, il se passe quelque chose. Finalement, t'es venu pour acheter quelque chose, on a découvert d'autres choses qui sera un peu moins vrai sur Internet. Mmh. Sur le digital, on va avoir une clé d'entrée qui sera un petit peu plus fonction-besoin. Mmh. Mais pour moi, elles peuvent complètement cohabiter.
Mmh. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, après ça?
Ah ben, je ne sais pas encore. Je prends plaisir déjà. Je pense qu'on va avoir cette année, là, sur ces prochains mois. On vient de finir 2 années de Covid, ouais, qui ont été très compliquées, où on a fermé pendant 3 mois et demi à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a été plutôt dans des urgences de situation. Là, on reprend goût, on a réouvert et ça se passe très, très bien. Cette année, on a une année de dingue avec les 170 ans. Donc, de repartir avec ce projet d'expérience dans tout le magasin où on est sur l'expérientiel, le magasin qui se transforme en salle de concert, salle de théâtre, où il se passe plein de choses, c'est un nouveau métier.
Ouais.
Comme tout d'un coup, un nouveau départ aussi. Le métier évolue énormément. Tu parlais tout à l'heure de rester longtemps dans un poste, longtemps. Le grand magasin, c'est quelque chose qui évolue non-stop. Mmh. Nos équipes, souvent, restent assez longtemps,
ouais,
parce qu'elles, déjà, elles peuvent évoluer d'un département à l'autre, d'un métier à l'autre, elles se nourrissent en permanence. Mmh. Et je pense que tant qu'on se nourrit, ça, c'est un pur
bien
bonheur.
Sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé, d'ailleurs, le Covid? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Concrètement, ça a fait quoi?
Alors, ça a changé au niveau de nos clients. On a eu du télétravail. Donc, ça veut dire que les clients ne viennent plus au même moment, plus aux mêmes horaires. On a surtout des besoins qui ont changé. Donc, on a parlé de la partie confort qui, ouais, était importante, hein, les sneakers, la maille. Beaucoup d'investissements dans la maison. Donc, on a un département maison qui est incroyable et qui a très, très bien fonctionné.
Ouais,
je pense que les gens, en restant chez eux, ont réalisé qu'il leur manquait pas mal de choses, qu'ils avaient envie d'embellir leur quotidien.
Ouais.
La notion de beauté aussi, tout ce qui est bien-être. Bien-être, donc la beauté 360 holistique, se faire un espace cocooning et se faire du bien, dans les ventes, on l'a vu, sur la partie soins, skincare qui était importante.
Trop bien. Okay.
Donc voilà, dans les changements, je pense que. Et après, dans les habitudes de travail, il y a un peu plus de télétravail, des visios, de Teams. Mais je crois que maintenant, on prend tellement plaisir à aller voir un showroom en vrai.
Ouais.
Donc ça, voilà, ça a redonné.
Tu vas encore, toi, sur les showrooms, etc.
Oui, j'essaie de
gagner.
C'est important.
Ouais.
C'est important. Alors, mes équipes, bien davantage, mais on continue. Et puis, de revoir, on revoyage, showroom, les défilés. Donc ça, c'est la dimension produit, découverte et rencontre.
Tu vas
clés.
Au défilé aussi.
Oui.
Trop bien.
Ouais, ça c'est une partie sympathique aussi.
C'est la meilleure partie. Pourquoi c'est important les défilés d'ailleurs ?
Les défilés c'est important pour aller. Nous, quand on travaille des opérations, des expositions, des mises en place de nouveaux concepts, ça peut nous aiguiller aussi. Ça,
ouais,
sur des partenariats, on va voir quelque chose, on se dit ça sera peut-être un super partenaire en exclusivité sur une ligne.
Ouais.
Ouais, on va essayer d'aller chercher très en amont, parce que c'est bien en amont, pour pouvoir développer nos calendriers de partenariat.
Trop bien. Comment c'est architecturé ton année, ton trimestre, ton mois, ta semaine, ta journée?
Alors, l'année, elle est répartie en 6 événements. On va avoir notre mois de janvier travaillé, découpé avec un artiste. Donc là, c'est la partie culturelle et artistique. Mm-hmm. Donc, notre directeur artistique va proposer des très jolis noms, souvent des noms précurseurs sur cette dimension culturelle, mm-hmm, et avec une dimension, avec une œuvre qui va être créée dans le magasin. Ensuite, on a une grosse opération qui va être pendant la Fashion Week de février-mars.
Okay.
Donc, comme on a pu l'avoir avec Philippe Catherine. Là, nous sommes en train de mettre en place la 3e opération de l'année avec cette dimension un RDT et la célébration des 30 ans des vieilles charrues. Donc c'est cette opération avant l'été, donc,
ouais,
ça fait 3 opérations. On a l'été et puis ensuite nous avons l'opération de rentrée, qui souvent était une opération célébration de pays, là c'est nos 170 ans, et puis après l'énorme temps fort de Noël. Donc voilà, tu vois, on a ces six moments où à chaque fois le magasin se retransforme.
Et chaque moment, il se prépare combien de temps à l'avance ? C'est colossal.
Alors là, on est par exemple sur Noël. Noël, c'est plus d'un an à l'avance. Mmh. Et sinon, normalement, c'est entre, oui, autour de 9 mois. D'accord. 9 mois.
Et vous bouclez les offres à quel moment ? Parce que c'est... jusqu'au dernier moment, on peut faire rentrer des choses.
Oui, jusque le gros sera travaillé avant, mais on a encore, lorsque tout d'un coup, on a un salon, une rencontre, s'il y a des coups de cœur quelquefois, on se dit bah ça colle tellement bien que c'est une évidence qu'on va pas passer à côté. Ouais. Donc on a encore cette réactivité là.
Tu gères combien de personnes aujourd'hui ? Enfin,
aujourd'hui, on a plus de 500 personnes dans les équipes, plus le même nombre de collaborateurs qui sont des collaborateurs des maisons, des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et ça se passe avec beaucoup d'harmonie, parce que pour le client, que ce soit une marque ou un collaborateur ou un conseiller de vente du bon marché, ça doit être la même prestation de service.
Bien sûr.
Et tu me demandais tout à l'heure comment travailler avec les équipes. Je prends toujours cette image que j'aime bien de chef d'orchestre. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, il connaît la musique. Il a une passion pour la musique, il a une passion des gens. En revanche, il ne sait pas jouer de tous les instruments. Et c'est ce travail-là où il faut savoir s'entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe incroyable. Ils vont tous avoir leur talent, tous avoir leur profil, leur caractère, mais ils aiment travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose qui
est pas mal.
Important. Ouais. En grand magasin, seul, tu ne fais rien.
Bien sûr.
Dans d'autres métiers, tu peux peut-être réussir, mais en grand magasin, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, il faut aimer ça. Cette curiosité dont je parlais, et puis la passion du produit du client. Sinon, je pense qu'il vaut mieux aller dans d'autres périmètres.
Bien sûr. J'ai perdu mes questions.
La structure du calendrier.
Oui, c'est ça, la structure du calendrier, parce que tu m'as parlé des grands moments, mais voilà, tu gères 500 personnes. Comment est-ce qu'on... C'est quoi ces moments... Enfin, comment est structurée la semaine pour pouvoir communiquer, parler, avancer ? Parce que ça peut vite être le bordel, en fait.
Mais on a des réunions d'équipe. Donc, tu vois, ce matin, par exemple, on avait une réunion d'équipe avec tous mes directeurs de département et leurs homologues sur la vente. Et on faisait un bilan sur l'exposition qui vient d'être terminée en se disant, voilà, tout ce qui a fonctionné, on partage les résultats, on partage ensemble les key learnings. Est-ce qu'il y a des choses où, à refaire, on ferait exactement pareil ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Est-ce qu'il y a des marques qu'on va absolument garder, justement, parce que ça a été un succès ? Et puis, on a abordé l'installation de la nouvelle exposition.
Ouais.
Donc, on va partager des moments qualitatifs. En parallèle, une fois par an, on fait des bilans des fameuses stratégies marché dont je te parlais. À la rentrée en septembre, on sera sur les budgets. Donc, on a des temps forts qui vont cadrer un petit peu notre façon d'acheter, notre façon de travailler, les collaborations avec les maisons. Donc ça, c'est un vrai travail qui jalonne toute l'année. Et puis après, au quotidien, il y a le travail en proximité des équipes, donc les briefs du matin pour les managers de proximité. Nous, on est très souvent dans le magasin. Donc ça, c'est quelque chose... On prend le pouls tout le temps et puis on a cette chance de pouvoir voir tout de suite. Il y a ce qu'on négocie au moment où la finalisation, ça se fait. Et puis après, dans le magasin, et comment ça réagit, comment les clients répondent.
Et quelle est la part de réactivité quand je sais pas, on a fait un choix d'une marque, ça marche pas du tout. Est-ce qu'on est capable de...
Oui, on va être capable. On va travailler pour travailler un merch différemment. On va communiquer peut-être davantage en disant peut-être que on n'a pas fait savoir assez, donc on va renforcer la signalétique. On va travailler avec des posts sur Instagram. On va peut-être modifier l'emplacement. On va bouger. Voilà.
On est
flexible.
Ouais.
Et c'est ça qui est chouette. Si tout d'un coup, au moment de l'installation de Noël, on s'aperçoit qu'il y a un espace qui explose et qu'un autre, on va pouvoir ajuster.
Très bien, ok. Je pense qu'on a fait un grand tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas forcément abordés ?
Écoute, on a parlé du produit beaucoup. Où je disais qu'on a peut-être précisé qu'au bon marché, il y a une spécificité sur le produit, c'est le poids de la maison. Dans beaucoup de grands magasins, la maison, c'est un peu le parent pauvre. Voilà, parce que souvent, ça a été une clientèle. Quand Paris était plutôt avec beaucoup de clients touristiques, la maison, c'est pas ce qu'ils ont le plus. Nous, comme on a une clientèle locale forte, la maison, c'est vraiment dans notre ADN.
Ouais.
Donc, on a toujours surdimensionné la maison, qui se vend très bien. On a une librairie et papeterie. Donc,
qui fonctionne bien aussi.
Qui fonctionne bien. Bien sûr, tu imagines qu'il y a d'autres secteurs plus rentables qu'une librairie et une papeterie. Mais pour nous, c'est important.
Ouais.
On maintient ce type d'espace.
Qu'est-ce qui fait le succès de la maison, au-delà du fait que tu as une clientèle qui est très locale ?
Clientèle très locale, je pense qu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui gardent des espaces pour la maison avec une sélection. Nos équipes maison sont des passionnées. Mmh. Elles travaillent, elles vont. On a une offre de vintage. Donc, on en parlait tout à l'heure de mobilier vintage. On a beaucoup de maisons en exclusivité. Mmh. On a des choses qui sont des grosses pièces pour vraiment décorer un magasin, un appartement ou une maison. Mais on a aussi pas mal de choses pour la décoration. Mmh. Donc, vous avez de plus petites pièces. Donc là, on a finalement des clients qui n'ont pas forcément besoin ou un gros budget, mais qui peuvent se faire plaisir. Il se passe plein de choses très, 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 très nouvelles. Là, on venait d'implanter une capsule avec Marinette, un partenaire de Saint-Tropez, avec des choses absolument très ludiques. Donc, au moment de décorer sa maison avec les vacances qui arrivent, voilà, c'est un petit clin d'œil. Il y a des choses très, très variées comme ça.
Trop bien. Tu es quel style de manager, toi ?
Alors, je suis un manager qui aime ses équipes, ça va faire tellement cliché. Mais oui, en tout cas, j'ai un plaisir fou à être avec mes équipes. Et je suis plutôt dans le management participatif. J'avais essayé de m'appuyer aussi sur le meilleur de chacun. Chacun a son expertise. J'essaie pas de mettre tout le monde au même niveau. Je vais m'appuyer sur la force de chacun des membres de l'équipe. J'aime qu'on fasse plein de choses ensemble. Donc, et que chacun aide l'autre. Mais c'est de la chance parce que cette équipe le fait spontanément. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver de l'extérieur, il y aura très vite un travail d'entraide. Il va y avoir un travail de cohésion fort. Donc voilà, donc ça va être, on va partir ensemble dans des découvertes de nouveaux endroits, nouveaux espaces. Voilà, on va essayer de s'imprégner. Et puis quand une personne a la chance de voyager, la chance de découvrir quelque chose, qu'elle fasse partager. Donc voilà, donc management plutôt participatif et puis avec cette dynamique, j'espère.
Est-ce qu'il y a de la politique dans cette maison ?
Très honnêtement, mais quasiment pas. Alors, dans le sens où aujourd'hui, mes équipes sont totalement libres de choisir leurs assortiments, de choisir les marques. Elles ont cette autonomie-là. Donc après, on a des discussions sympathiques et quelquefois hautes en couleur avec des maisons. On va pas être d'accord, etc. Mais on a cette chance-là, cette liberté de parole et d'action.
Les gens qui sont qui rejoignent aujourd'hui. Parce que toi, ça fait, t'es encore très jeune.
Oui, voilà. Le magasin a 170 ans, mais voilà. Moi juste 48.
Voilà. Tu commences à avoir un petit peu d'expérience quand même. Tu vois une différence entre les gens de ta génération et la nouvelle génération ?
Oui, sur des comportements. Alors, en client ou en collaborateur ?
Les deux.
Alors, en client, ça va être beaucoup plus de questions sur la provenance, le sourcing. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que je pense que ça tire tout le monde vers le haut. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est un questionnement, voilà, c'est où ça a été produit et l'emballage et comment c'est... Voilà, donc ça, c'est une question forte. Donc, on sent qu'il y a une demande sur le donner du sens. Il y a cette partie-là, donner du sens, qui est plus présente, je pense, sur la nouvelle génération que sur ma génération. Sur les collaborateurs, ça va être... on va avoir des questions lors des entretiens qui vont nous poser cette même question. Et qu'est-ce qui est fait ? Est-ce que vous reversez des fonds à une association ? Qu'est-ce qui est fait ? Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, très intéressant. Qu'est-ce qui est fait pour la place des femmes ? Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein des bureaux pour la partie green ? C'est du concret.
Bien sûr. Trop bien. Et d'ailleurs, quand tu passes des entretiens, qu'est-ce que tu attends d'un candidat, d'une candidate ?
Alors, moi, j'attends que lorsqu'on se rencontre, qu'il me fasse un feedback sur le magasin, qu'il ait pris le temps de comprendre s'il y a des choses pertinentes, que ça aille dans le bon sens ou des points
d'amélioration,
qu'il ait cette curiosité. Moi, ça va être vraiment ce mot de curiosité. On va voir lorsqu'il va être... Il va parler de ses expériences passées, la façon dont il va se mettre en avant, ou si, par les collectifs ou uniquement le jeu, sans arrêt. Mais ça va être plutôt cette agilité à avoir vu des choses, à avoir envie de faire bouger les choses.
Et comment tu vois, c'est quoi les signes qui ne trompent pas ?
Je crois qu'il n'y en a pas à chaque rencontre. Il y a une alchimie, ça se passe. Mais je vais passer plus d'intérêt et de temps à l'écouter et transmettre sa passion des choses. Parce que s'il est passionné, il sera passionné sur le terrain ou aux achats. Donc ça, c'est vraiment important. Ou à dénicher de nouvelles pépites au bureau de style. Ou à analyser les résultats commerciaux. Parce qu'on a une équipe dédiée. Plutôt que l'école ou plutôt que sa formation. C'est pas ça qui va être mon moteur.
Bien sûr.
Une tête bien faite, ok, mais il y en a plein. Après, ce qui fera la différence, c'est le, voilà, le petit peps qui va. Mmh. Et on a quelque chose en interne. On a des écoles et des promotions Boussico. Boussico est le nom de nos fondateurs, qui sont en place pour faire grandir nos équipes. Nos cadres à potentiel ont vécu, par exemple, un an avec des certifications HEC cette année. Ils ont été coachés, ils ont été nourris pendant un an en programme en plus de leur travail pour se développer. Et on fait la même chose avec nos collaborateurs de vente employés. Pour leur donner la possibilité de passer manager. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une entreprise qui donne la possibilité d'évoluer.
Trop bien. Et dans toute ta carrière, là, qu'est-ce que tu ferais différemment s'il fallait recommencer quelque chose ?
Alors, je pense que je serais partie à l'étranger jeune.
Okay.
Partie à l'étranger jeune, c'est plus facile jeune qu'avec des grands-enfants. Donc, je crois, oui, c'est ça qui me... Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant, plutôt au démarrage de carrière, quand on a peut-être moins de pression pour rester. Oui, je pense que ce serait à refaire.
Très bien. Ok, et bah, écoute, je pense qu'on a fait un joli tour. Deux dernières questions pour clôturer et passer le relais. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Alors, écoute, alors, j'avais une dimension, mais quelqu'un qui n'est pas forcément lié à la mode. Donc, si je te parle de Yann Arthus-Bertrand, ça sera sa vision. Ouais. Sa vision, si ça peut marcher.
Ouais.
Je trouvais que son discours sur la protection de l'environnement, tellement en amont quand personne n'en parlait. Et je le vois encore dans ces reportages que je revois encore avec passion. Et je me dis, c'est quelqu'un qui a eu cette vision, cette prise de conscience très tôt. Et je pense qu'avec son art, sa puissance artistique qu'il a, son goût pour les belles choses, je suis sûre qu'il y a des passerelles à faire avec nos univers.
Carrément. Et dernière question, tu sais, moi j'ai une marque qui s'appelle Réunis, et j'aime bien poser cette question à mes invités, c'est qu'est-ce que tu ferais différemment, qu'est-ce que tu pourrais, quel conseil tu pourrais me donner si tu as eu le temps de jeter un coup d'œil.
Oui, j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil, et je pense qu'il faut, alors c'est incarné, donc je pense mais je pense qu'il faut lui donner encore plus de lien avec le client, parce qu'il y a la dimension est canon, enfin, je pense que l'idée elle est dingue, mais le rendre encore plus concret. Donc ça veut dire concrètement peut-être l'expliquer. Il y a un côté pédagogique qui doit être encore plus fort, pour que ce soit encore plus explicite pour quelqu'un qui ne connaît pas.
Oui, bien sûr.
Ouais, donc ça, pour moi, c'était... Et donc, pour ça, choisir des mentors, choisir le réseau.
Ouais.
On en parle, et c'est vrai que dans le milieu de la mode, je pense que c'est clé de se dire, moi, je m'appuie sur une expertise. Si moi, je ne sais pas encore comment aller communiquer de cette façon-là, je vais aller m'appuyer, donc aller chercher des expertises dessus. Donc, toi, je pense que ça va être un peu... et puis après, se faire confiance, mais ça, c'est...
Ouais.
Mais je pense vraiment sur la partie réseau et la partie chercher des appuis, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire facilement, parce qu'on a l'impression que quand on va chercher, c'est bon, mais non, en fait, c'est un cadeau que l'autre peut faire, de se dire je mets à disposition mes ressources, mes compétences pour aller, et souvent c'est là où il y a le déclic qui
explose, qui apparaît. Trop bien, merci beaucoup, merci infiniment pour ton temps.
Merci,
c'était
Adrien.
Une belle rencontre,
très agréable.
À très bientôt,
à très vite, j'espère.
Ouais, avec plaisir, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.